Vous écoutez Radio Campus Paris, 24h sur 24 en DAB+, et sur radiocampusparis.org.
Il est toujours 20h, je crois qu'il est toujours 20h, je n'ai pas d'horloge, mais il doit être à peu près 20h sur Radio Campus Paris. C'est le retour du lobby, le rendez-vous de l'actualité et des cultures queer. Let's go Margot.
Mesdames, messieurs, toutes les personnes entrent et au-delà.
Bonsoir Paris.
Salut, yeah. Alors bienvenue.
C'est symptomatique de la présence des lobbies dans les cercles du pouvoir.
I'm like so gay, dude.
Si vous dites à un homosexuel, vous êtes homosexuel, il n'a pas de soucis.
Je pensais avoir tout vu, ou presque, des agissements des lobbies. Ils
sont dans les campagnes, dans les villes. Darling, I want my gay rights now.
Si tu dis à un homosexuel, tu es une folle, c'est pas le même registre.
Et je crois qu'il faut toujours écouter les personnes concernées.
Moi, je sais bien quand c'est sexisme, on me rend compte assez vite quand même.
C'est toujours les plus à même de raconter leurs histoires.
Le lobby sur Radio Campus Paris.
Et bonsoir à tous, on est ensemble pendant une heure en direct sur Radio Campus Paris 93.9 FM et quand vous voulez sur les applications de podcast pour cette émission, comme d'habitude, par et pour les personnes queer, vous connaissez le principe des chroniques, des invités, du live et à m'écouter pour ouvrir le bal, l'irremplaçable Victor. Salut Victor.
Salut Colin.
Alors dis-nous, qui est autour de la table ce soir?
Nous avons avec nous ce soir le fidèle parmi les fidèles, Xavier. Tu nous fais découvrir une nouvelle personnalité musicale queer ce soir. Tu nous en dis un peu plus?
Tout à fait, bah, je vous en dis pas trop, mais on a rendez-vous tout à l'heure pour un live avec l'Amulette.
Et l'Amulette faisait ses balances tout à l'heure. Écoutez.
Oh mon amour, ton grain de voix fait mon bonheur à chaque pas. Laisse-moi te dessiner dans un dessert.
L'Amulette, donc en live dans le lobby pour cette reprise que vous avez peut-être reconnue. Rendez-vous à 20h30.
Et puis au programme aussi, dans un instant, l'actualité LGBT+, c'est avec une nouvelle voix qui rejoint l'équipe. Salut Juliette.
Salut Victor. Alors ce mois-ci, le site Action fête ses 30 ans. C'est l'occasion de revenir sur l'histoire de l'association et sur ses objectifs, mais aussi de dresser un état des lieux de la situation. Aujourd'hui encore, des idées reçues persistent et d'après un sondage IFOP mené auprès des 15-24 ans en 2022, 31% des jeunes interrogés estiment être mal informés sur le VIH-SIDA. On en parle avec Sandrine Fournier, directrice du pôle financement des associations chez site Action.
Et à tout à l'heure, Juliette alors. Et en fin d'émission, il sera l'heure d'accueillir Zoé pour une petite recommandation cinéma.
Tout à fait, je vais vous parler de cinéma queer et de non-distribution française.
Et ben à tout à l'heure Zoé.
Et avec nous jusqu'à 21h, deux invités, deux artistes queer multidisciplinaires ensemble. Et elles ont publié l'année dernière une bande dessinée, Hacké la peau. Avec Elle, on va courir dans les rues de Lyon le temps d'une nuit de violence et de terreur dans un pays où l'élection de l'extrême droite a donné des ailes aux fascistes et où une communauté queer essaye d'inventer de nouveaux horizons. Jules Marot et Sabrina Calvo sont avec nous jusqu'à 21h.
Le lobby. Radio Campus Paris.
Et bonsoir à vous deux.
Bonsoir.
Je ne sais pas si Sabrina Calvo nous entend, vous êtes à distance depuis Londres. Bon, je pense qu'on va la retrouver un petit peu plus tard. Jules Marot, en tout cas, vous êtes avec nous jusqu'à 21h. Pour commencer, je voudrais que vous nous racontiez comment est-ce que vous vous êtes rencontrés. Du coup, ça va tomber sur vous, Jules Marot, je suis désolée. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés avec Sabrina et comment est née l'envie de travailler ensemble?
Il y a toujours deux versions, hein, dans une rencontre, généralement.
Peut-être qu'on aura la deuxième tout à l'heure.
En ce qui me concerne, j'ai envie de dire que c'est autour de ce projet, tout simplement. À la base, c'était une commande pour une résurrection de Métal Hurlant pour les humanoïdes associés en 2021. Uh-huh. Et en fait, on a décidé d'en faire un livre. On a lâché un peu les humanos comme ça, de manière très dramatique. Et on s'est dit, voilà, on va en faire un vrai récit long plutôt que quelques pages dans une revue. Et en fait, on a eu un très gros coup de cœur, je pense, amical et relationnel, Sabrina et moi. Et on ne s'est jamais quitté depuis et on aimerait vraiment en faire une saga, en vrai.
Est-ce que Sabrina, vous confirmez, je crois que vous avez votre micro en silencieux, si je regarde sur mon écran. Si, voilà, on vous entend, je crois.
Ouais, salut.
Salut. Alors, donc comment s'est passée cette collaboration? Donnez-nous votre version de cette rencontre avec Jules Marot.
On s'est rencontrés tout au fond d'une piscine.
Il va falloir
dans
nous en dire
plus. Dans le grand bassin. En fait, on faisait des exercices de respiration et à un moment donné, on s'est dit que on pouvait essayer de communiquer. En fait, on s'est tombé dessus l'une l'autre. En fait, on ne savait pas trop. Il n'y avait personne là. tout était très bleu, il y avait cette espèce de serpent de lumière sur les murs. Et en fait, on s'est tendu. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a eu le même geste au même moment. C'est-à-dire qu'on s'est tendu les mains et qu'on s'est dit d'accord. Avec, mais vous savez, quand on est sous l'eau, c'est super intéressant d'essayer de parler, parce qu'en fait, quand on dit d'accord, ce qui sort, c'est... Et du coup, on a développé une manière de communiquer en essayant de comprendre la forme des bulles de l'autre. Et on s'est dit peut-être qu'on allait pouvoir faire une BD.
Ah, je crois que je poétique. Préfère vraiment cette version de l'histoire au final.
J'y crois bien davantage.
Je pense qu'il y a vraiment toute la symbolique de la BD, les bulles, tout ça, etc.
C'est très beau.
Et le troisième fleuve en plus qui surgit
dont on va reparler effectivement.
Donc,
ouais. Et alors dans ce récit justement, donc c'est un récit, si j'ai bien compris, vous avez travaillé à deux comme ça en vous envoyant les pages au fur et à mesure, c'est ça ?
Oui, parce qu'en fait Sabrina m'a d'abord envoyé deux pages de dialogue. Mmh. Et moi, je me souviendrai toujours de ma réaction, genre what the fuck. Enfin, la moitié, c'était des espèces de formulations réduites de mots. Et en fait, c'est vrai qu'on a eu l'habitude pendant plus d'un an de travailler en forme de cadavre exquis. C'est-à-dire qu'elle m'envoyait une première séquence. Moi, je répondais en bande dessinée. Mais en fait, on se coordonnait pas forcément sur le contenu qu'on attendait, et donc il y avait toujours des surprises qui se créaient. C'est-à-dire qu'elle découvrait les pages avec des suggestions ou des choses qu'elle n'avait pas forcément pensé dans ce qu'elle avait écrit, mmh. et elle le récupérait pour pouvoir en effet écrire la séquence suivante. Et du coup, on s'est répondu de cette manière-là pendant une bonne année, en effet. On avait plus ou moins les grandes lignes. Hein. Évidemment. Je pense que les élections présidentielles de 2022, ça a beaucoup aussi joué sur le contexte sociopolitique qu'on a abordé dans ce livre. Mmh. Parce qu'au début, c'était pas très concret, en effet. Où est-ce que ça se passait
Alors voilà, justement,
année,
les
etc.
grandes lignes. Donc ça se passe à Lyon. On est dans un futur plus ou moins proche. On pourrait parler longuement de est-ce que c'est une dystopie ou pas. En tout cas, on sait que l'extrême droite est arrivée au pouvoir, ce qui donne un petit peu des ailes, donc, comme je le disais, aux fascistes de tous bords, aux fascistes donc, dans cette ville de Lyon. Et on suit trois personnages, Prine, Molly et Axel, qui vivent une relation à trois plus ou moins tumultueuse, plus ou moins fonctionnelle. On va avoir le temps de parler de ce lien très particulier qui unit vos trois personnages. Et donc, un point important, effectivement... Vous tenez à dire que ce n'est pas une dystopie, justement. Wendy Delorme, qui signe une préface à votre bande dessinée, on va en reparler, parle de prophétie politique. Ça vous va, Sabrina Calvo, par exemple ?
Ouais, vous m'entendez toujours ?
Oui, on vous entend très bien.
Enfin, je veux dire, ça, on a un peu du mal à faire écrire aujourd'hui des dystopies, vu ce qu'on est en train de vivre. Quoi. Je crois que là, on est tellement... Ça fait un certain temps déjà que la science-fiction a été rattrapée par... par tout ce qui se passe. Hein. Et d'ailleurs, enfin, je veux dire, c'est pas nouveau. Il y a une vingtaine d'années déjà, la plupart des grands acteurs et actrices de la science-fiction se posaient des questions, de se dire à quoi aujourd'hui ça peut servir, ou en tout cas à quoi ça rime de continuer à écrire de la science-fiction, tout en sachant qu'on arrive à un point où, alors non seulement il y a une captation de la technologie par des pouvoirs d'atrophie et d'oppression, mais en plus qu'il y a une accélération. Enfin, il y a eu une accélération. Alors maintenant, je ne sais pas trop si elle est encore là. On a du mal à discerner parce que comme on est en temps de guerre, la vérité elle est toujours murée derrière du mensonge. Et nous, avec nos petits moyens, même si on croit qu'on est informé, en fait, on ne l'est pas vraiment. Et du coup, ce serait compliqué pour moi de dire que ce bouquin est une dystopie. Ce n'est pas une dystopie. On tente de prendre acte de ce qui est en germe politiquement, socialement, et technologiquement, dans ce que nous voyons au jour le jour avec nos petits outils, on va dire, et instinctivement d'essayer de voir ce qui pourrait être une fonction de la science-fiction aujourd'hui, de la fantastique par extension, d'essayer de voir comment dans ces germes-là est contenu une arborescence de possibles, et d'essayer d'en explorer une, deux, peut-être trois. Et il faut savoir que ce qui est intéressant quand on utilise cette méthodologie, c'est que c'est une méthodologie qui a été explorée par plein de gens avant nous, notamment dans l'Antiquité, la construction de prophéties, la construction d'oracles et par extension de cycles. C'est exactement ça, les prophéties, c'est des cycles. Hein. C'est pas du tout genre il va se passer ça à telle date, c'est pas ça. C'est dans la manière dont se développent les choses, les phénoménologies, il y a toujours en fait une récurrence de choses. Et en fait, apprendre à discerner ces patterns-là, apprendre à les identifier avec un certain nombre d'outils, qui sont pour le coup des outils qui ne sont pas tributaires de la technologie, mais qui sont plus tributaires de la finesse avec laquelle on va regarder les actions, des gens, les gestes, les intonations, comment on va travailler finalement avec la matière du réel pour identifier ces boucles-là.
Est-ce que Lyon, justement, ce serait le bon endroit, justement, puisque c'est à Lyon que vous avez décidé de fixer cette action. C'est un bon laboratoire, peut-être, pour parler de tout ce qui est en germe, comme vous le disiez, Sabrina Calvo?
Ah oui, je pense que Lyon, c'est vraiment une ville frontière en France. Frontière entre... Alors, il y a deux fleuves, et effectivement, on peut retrouver par analogie, on va dire, une espèce de ligne de contact entre deux visions très manifestes d'une envie de la société française. Et je pense que ce que nous vivons à Lyon, alors moi, je n'y suis pas depuis très longtemps, c'est ce qu'on va vivre, en fait, si jamais...
C'est-à-dire un affrontement très violent entre fascistes et antifascistes, puisqu'il y a une cartographie assez précise que vous donnez dans la quatrième de couverture, qui montre qu'il y a des quartiers dirigés par les fascistes et d'autres encore aux mains des antifascistes, avec des quartiers encore où les gens se battent pour les contrôler.
Oui, mais là, on a vraiment cherché à brouiller, en fait, les lignes entre passé, présent et futur. Mm-hmm. C'est-à-dire que ces quartiers-là ne sont pas actuellement déterminés... ils ne sont pas découpés de cette manière-là. Ouais. Mais ce qu'on a décrit de la situation à Lyon, elle est assez proche de la réalité actuelle. Et en plus de ça, pour revenir au terme de dystopie, généralement, les gens qui emploient ce terme-là, c'est les 6-7. Mais c'est vrai que pour
rebondir... Alors que nous, on sait déjà qu'on est déjà dans la dystopie.
En fait,
quoi.
Voilà, pour rebondir sur ce que disait Sabrina, c'est ça. C'est qu'en fait, nous, on est déjà dans cette forme de réalité. C'est pour ça que quand on a eu les élections 2022, on a revu vraiment la copie du contexte sociopolitique qu'on essayait de déterminer pour dire, OK, en fait, on va faire comme si elle avait gagné. Et on n'a même pas attendu le deuxième tour. C'est-à-dire que là, on a commencé vraiment à créer la suite et donner un contexte et se mettre vraiment les mains dans le cambouis pour les pages suivantes. Mais Lyon, c'est tous les jours, enfin pas tous les jours, mais tous les mois, toutes les semaines, un événement assez similaire à ce qu'on décrit déjà. Et c'est pour ça que dans le livre, on n'a pas dit est-ce que c'est 2022, est-ce que les élections dont il s'agit, c'est 2022 ou c'est 2027.
Et on continue à en parler dans un court instant. Jules Marot, Sabrina Calvo, on vous retrouve donc tout à l'heure pour parler de Hacker la peau, paru aux éditions du Lombard, mais avant, place à l'actualité LGBT+ du mois.
Le lobby. Radio Campus Paris.
Et ce soir, c'est avec Juliette. Ça va, Juliette?
Ça va bien, et toi?
Eh ben, ça va super, merci. Alors Juliette, cette année, le SIDAction fête son 30e anniversaire.
C'est ça, l'association fondée en 1994 a diffusé le week-end dernier son émission annuelle pour récolter des dons afin de financer la lutte contre le virus. À l'époque, cela ne faisait que 10 ans que les premiers cas de VIH avaient été détectés. Sandrine Fournier, directrice du pôle financement des associations de SIDAction, nous raconte.
En 1994, les trithérapies ne sont pas encore sur le marché, pas encore élaborées, donc les gens meurent. Hein. C'est vraiment une période terrible, 1994. Et donc c'est dans cette situation d'urgence, au fond, à la fois d'urgence à accompagner aussi les personnes qui sont en train de mourir du sida, qui sont pour certaines d'entre elles et pour beaucoup d'entre elles rejetées par leur famille, rejetées, y compris traitées avec beaucoup de... disons, précaution à l'hôpital, victime de discrimination de mille manières. Donc c'est vraiment une période très, très noire et une période pendant laquelle, effectivement, on a besoin de recherche. Alors, à la fois de la recherche fondamentale, mais aussi de la recherche en sciences sociales pour comprendre quels sont, et on continuera ensuite, par exemple, les freins au dépistage ou pour comprendre quelles sont les représentations dans telle ou telle communauté qui vont conduire les gens à ne pas recourir aux soins, etc., etc.
En 30 ans, les lignes ont bougé, évidemment, et les avancées sont immenses, étant donné qu'on ne meurt plus du sida, notamment grâce aux trithérapies qui ont sauvé de nombreux et nombreuses malades depuis 1996. Il existe aussi la PrEP, médicament très efficace, qui, pris régulièrement, ou bien avant ou après un rapport sexuel, empêche le virus de se contracter. À connaître aussi le TASP, Treatment as Prevention, ou traitement antirétroviral comme prévention. Cela signifie qu'une personne séropositive qui a une charge virale indétectable depuis 6 mois sous traitement traitement efficace et qui est observante de son traitement et du suivi médical ne transmet plus le virus. En parallèle, la recherche continue. Son objectif, la rémission, c'est-à-dire la mise en œuvre d'un traitement qui permet d'expurger les cellules qui sont constituées en réservoir du VIH à l'intérieur du corps. Néanmoins, malgré ces importantes avancées, certains groupes demeurent particulièrement exposés à l'épidémie en France et rencontrent des difficultés d'accès à la prévention.
Et c'est justement quand les associations, en l'occurrence Non-Sidaction, ont alerté sur Santé publique France en disant « Attention, là, on a un angle mort sur l'épidémie, ce sont par exemple les hommes gays noirs », alors Santé publique France, à ce moment-là, a mis en place de nouvelles questions dans la surveillance systématique. Et là, on s'est rendu compte qu'il y avait un sous-groupe particulier et qui n'était pas du tout dans la même situation vis-à-vis du VIH que les hommes gays blancs.
Sandrine Fournier a aussi insisté sur l'idée que vivre avec le sida, c'est subir des discriminations toute sa vie et le diagnostic équivaut encore à une mort sociale.
Là où ça coince et là où on n'a vraiment pas fait de progrès, c'est sur la stigmatisation et la discrimination des personnes qui vivent avec le VIH. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est toujours aussi difficile qu'il y a 30 ans, 40 ans de vivre avec le VIH. Je veux dire, psychiquement, alors c'est très différent parce que ça n'est plus une annonce de mort, ça c'est vraiment très différent, mais c'est quand même une annonce de mort sociale. Et c'est là aussi que les associations que nous finançons jouent un rôle important, parce que vous n'imaginez pas le nombre de gens qui franchissent les portes de ces associations et qui n'en ont jamais parlé à personne. Et quand je dis à personne, c'est parfois pas à leurs conjoints, pas à leur famille, pas à leurs amis, vraiment personne. Et les associations, effectivement, aident avec ça, permettent des lieux où tout simplement on peut en parler, on peut rencontrer des gens qui sont dans la même situation. On peut d'ailleurs s'échanger, il y a des groupes de parole autour de comment on annonce sa séropositivité dans tel ou tel contexte, à son conjoint, à ses parents. À chaque fois, c'est un coming out à chaque fois, et c'est pas simple du tout.
C'est pour toutes ces raisons qu'il est nécessaire de continuer à parler du VIH, de la manière dont on peut s'en protéger et des traitements qui existent et empêchent de le transmettre. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à écouter ou lire l'interview complète en podcast sur radiocampusparis.org.
À la page du lobby, évidemment. Merci beaucoup Juliette. Et pour soutenir le SIDAction, on peut envoyer don par SMS au 92 110, et puis on vous encourage aussi à vous rendre sur France.tv pour aller regarder la très puissante série It's a Sin, à voir gratuitement à l'occasion des 30 ans du SIDAction. L'actualité queer, c'est aussi bien sûr un rapport publié la semaine dernière par les sénateurs Les Républicains sur les mineurs trans, près de 400 pages où la transphobie qui s'exprime confine parfois au complotisme. Les sénateurs qui s'inquiètent d'une épidémie de transgenre souhaitent faire une proposition de loi avant l'été qui visera notamment à interdire les bloqueurs de puberté pour les mineurs, comme en Grande-Bretagne récemment, ou encore à abroger la circulaire Blanquer, vous savez, ce texte très incomplet certes, mais qui offrait néanmoins la possibilité aux enfants trans d'être appelés par leur prénom choisi et non par leur prénom à l'état civil à l'école. On en parle ce vendredi dans notre podcast hebdomadaire avec Anaïs Perrin-Prével, coprésidente de l'association À Outrans. Ce sera, je le rappelle, sur toutes les applications de podcast et sur notre site radiocampusparis.org à la page de l'émission pour lire notre entretien. À 20h17, nous sommes toujours avec Jules Marot et Sabrina Calvo pour Hacker la peau, une bande dessinée queer parue aux éditions du Lombard. Tiens, juste avant qu'on marque une petite pause musicale, j'avais une question pour vous, peut-être Jules Marot. Votre BD, elle s'accompagne d'une playlist Spotify à laquelle on peut accéder en flashant un petit QR code. Qu'est-ce qu'il y a dans cette playlist? Comment est-ce que vous l'avez conçue?
En fait, c'est des morceaux qu'on s'envoyait en même temps qu'on s'envoyait les séquences avec Sabrina. C'est-à-dire que généralement, elle m'envoyait quelques pages et il y avait toujours le morceau avec lequel elle avait écrit. Et en réponse, voilà, moi j'envoyais aussi un morceau et ça a créé cette playlist qu'on a réorganisée de manière plus narrative, comme si on suivait vraiment le rythme du récit.
Donc on peut lire la BD en écoutant la playlist en même temps.
C'est possible, absolument. Oui, oui.
Pour une expérience plus immersive. On mettra le lien, si vous voulez, de la playlist sur radiocampusparis.org à la page de l'émission. Et nous, à 20h18, comme chaque mois, on s'écoute une nouveauté.
La seule fois où je suis derrière, c'est quand y'a la famille d'abord. De l'eau sur de l'encre à Salila. Quand on a trimé d'abord, faut donner la compte. Appel de farfauté qu'à la droite. On rentre à 10, on ne paie pas la boîte. La taille est chère, on ne paie pas à 4. Eux, c'est mes gosses, mais je n'ai pas la garde. Du coup, ils veulent me terminer. Ils n'ont eu droit à aucune attention. Combien de liens j'ai déliés. Y'a toujours la salope qui chante ma chanson. Elle me donne 1, 2, 3, 4 tibos. Je laisse rien pour eux, je prends tout, je fais la peau. Ils paieront jamais mes impôts, vrai CEO. Ce sera plus même prix au prochain mercato. Chez nous, on ne faisait pas de vœux. Les étoiles filent à contre-sens.
fond. Si je était un choix du feu, commence depuis l'adolescence. J'ai pris le train dernière escale, escale, escale. Maintenant dans le carré, c'est nous les stars, les stars, les stars. Chez nous, on ne faisait pas de feu. Les étoiles filent à contre-sens. Si je était un choix du feu, commence depuis l'adolescence. J'ai pris le train dernière escale, escale, escale. Maintenant dans le carré, c'est nous les stars, les stars, les stars. Les problèmes infinis sont majeurs, dans son mauvais héritage. J'aime pas les paiements pas à jour, pas dans le bonheur qu'on apprend à nager. Dans quelques jours, quel que soit le prix, faut bien que tu comprennes, ça sera pas cher. Pour construire les murs, j'empile cachet. Si tu m'entends plus, vérifie cadje. Puis 2000 feux, je porte du vrai. C'est avec ce papier que ces larmes, j'ai sort. Comme on se vient, tout le soleil se lève. Avec tes défaites, de chasse rêve. Elle me donne un, deux, trois, quatre tibos. Je laisse rien pour eux, je prends tout, je fais la cour. Ils paieront jamais mes impôts, vrai CEO. Ce sera plus même prix au prochain mercato. Chez nous, on ne faisait pas de feu. Les étoiles filent à contre-sens. Si le cœur était un choix du feu, commence depuis l'adolescence. J'ai pris le train dernière escale, escale, escale. Maintenant dans le carré, c'est nous les stars, les stars, les stars. Chez nous, on ne faisait pas de feu. Les étoiles filent à contre-sens. C'était un choix du feu, commence depuis l'adolescence. J'ai pris le train dernière escale, escale, escale. Maintenant dans le carré, c'est nous les stars, les stars, les stars.
Dernière escale, le dernier banger de Meryl, pour qui on vote en masse pour la cérémonie des flammes à suivre le mois prochain.
Le lobby. Radio Campus
Paris. Yeah.
Et on retrouve Jules Marot et Sabrina Calvo, les autoristes de Hacker la peau, une bande dessinée parue chez Le Lombard. Et avec vous, on va commencer à ouvrir les pages de cet ouvrage. Ça commence par une préface de Wendy Delorme, Victor.
Oui, Wendy Delorme, romancière lesbienne, autrice notamment de Viendra le temps du feu en 2021 ou de Quatrième génération en 2007. Je vous en lis donc un petit extrait. Toi qui aimes, qui écris, toi qui fais des images, toi qui as soif d'être libre et qui scande en manif, ouvrez les frontières. Toi qui chantes, toi qui cries, toi qui plonges tes mains dans le cœur d'une machine ou dans l'eau de vaisselle d'un lieu de vie collectif, toi dont la maison est dans le cœur de tes adelphes, toi qui pries à genoux au lever du soleil et toi qui ne crois pas qu'il existe une puissance qui nous dépasserait. Toi qui aimes à plusieurs et toi qui te retranches aux confins de ton cœur qui s'est souvent brûlé. Toi qui dis que l'amour est une fiction et toi qui penses qu'elle est la plus épique de toutes. Rendez-vous dans ces pages. Alors, pourquoi avoir choisi, avoir demandé à Wendy Delorme de faire une petite introduction à votre bande dessinée, Jules Marot?
Ah bah c'est Wendy Delorme quand même. c'était un honneur surtout pour nous, de l'avoir entre nos pages pour cette préface. Et on adore son écriture, Sabrina et moi. C'est une amie et en plus de ça, elle est lyonnaise, elle connaît très très bien Lyon. Moi, j'ai appris des choses sur Lyon en lisant sa préface en fait. Donc, c'était extrêmement bien choisi de l'avoir elle pour cette préface.
Alors, dans cet extrait de la préface lu par Victor, on a en quelques lignes un peu toutes les thématiques que vous allez aborder dans votre œuvre. On n'aura pas le temps de les évoquer toutes ce soir. On peut commencer quand même avec l'amour, puisque Hacker la peau, c'est l'histoire de trois personnages qui s'aiment un peu comme ils peuvent. Donc, Prine, une femme pansexuelle, si je ne dis pas de bêtises. Molly, une femme trans. Et Axel, un mec cisette, originaire d'un milieu plutôt aisé, plutôt conservateur, qui depuis s'est éloigné de son milieu d'origine. Et leur histoire est loin d'être un long fleuve tranquille. Peut-être pour nous aider à comprendre ce lien amoureux qui unit vos personnages, il y a ce mot de limérence qui est mis en exergue au seuil de la BD. Victor, c'est quoi la limérence, dis-nous ?
Bien, la limérence, c'est un concept forgé par la psychologue américaine Dorothy Tenoff dans les années 70, dont vous donnez la définition suivante. C'est un état d'adoration et d'attachement involontaire, mais potentiellement inspirant, à un objet impliquant des pensées intrusives et obsédantes, des sentiments et comportements allant de l'euphorie au désespoir, subordonnés à la réciprocité émotionnelle perçue. Est-ce que vous nous en feriez une petite explication de texte, Sabrina Calvo ?
Pour moi, justement, précisément, ça peut pas être une explication, puisque c'est quelque chose qui est du domaine de l'affect. C'est-à-dire, l'affect, c'est ce mouvement intérieur qui parfois se traduit ou s'incarne dans une émotion, puis se sédimente dans un sentiment ou dans un geste, ou dans une expression, que ce soit des fringues, ou que ce soit un mot, etc. Donc, mais l'affect lui-même, quand il est saisi, quand il est saisi dans toute sa nuance et dans toute sa... dans tout son impossible, en fait, puisqu'il n'est nulle part, quelque part, il appelle des conditions, comme la numérance. Ce qui fait que ça nous échappe, en fait. On ne peut pas l'expliquer, on ne sait pas pourquoi. Alors, il peut y avoir des raisons phéromones, il peut y avoir des trucs d'obsession, de motifs qu'on retrouve chez l'autre, ou qu'on retrouve dans un objet, je ne sais pas. Mais pour moi, justement, précisément, ce n'est pas un appel de raison. C'est quelque chose qu'on ressent. Et quand on est au plus proche de notre peau et de la célébration de la vie, parce que être une personne trans ou être une personne queer, c'est aussi être très 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 à vif à ça, quoi. C'est-à-dire vraiment le vif, cette sensation d'être en vie, de comprendre, d'avoir la chance d'être en vie et d'essayer de le vivre au maximum chaque instant, parce qu'on sait très bien que dehors c'est dangereux, parce qu'on sait très bien que ça durera pas, ou en tout cas peut-être pas comme ça. Et qu'on actualise l'éternité par ce souffle-là, ce contact avec le vivant-là, c'est de l'affect pur, en fait. Et la limerence, c'est un endroit qui nous permet de nous relier vachement. Donc, en fait, on tombe amoureuse tout le temps, quelque part, de gens, de choses, de gestes, de couleurs, d'endroits comme ça, de célébration. Et du coup... parfois, on a tendance à s'attacher à ce sentiment-là et à se dire « Mon Dieu, c'est de l'amour ». C'est pas vraiment de l'amour. Quand on parle d'amour, on parle d'autre chose. On parle de quelque chose qui vraiment nous dépasse, et de don de soi et d'endroit d'envie de changer, mais en tout cas de s'émanciper et d'émanciper l'autre. Donc, c'est pas vraiment la même chose.
Et vos trois personnages, oui, vous diriez qu'ils sont peut-être eux encore dans la limerence et qu'ils essayent justement d'aller vers une forme d'amour. Est-ce qu'il y a un petit peu de ça?
Bah, en fait, je pense que ce que ce livre essaye de décrire très modestement, c'est le passage de la limerence à l'amour, en fait. Voilà. C'est-à-dire le passage du moment où on est dans une espèce de danse avec l'amour, une danse un peu frivole, ou en tout cas un truc un peu léger et un peu drama, ou un peu émo, à quelque chose de beaucoup plus, alors j'ai pas envie de dire sérieux parce que c'est pas du tout mon intention, ni même profond, parce que je pense que la limerence peut être très profonde, mais à quelque chose qui appelle autre chose que la simple relation, en fait. C'est pas simplement la relation, ça s'appelle autre chose. C'est 1 plus 1 égale 3, en fait. Vous voyez, c'est pas... Et c'est là où le 1 plus 1 égale 3, il a du sens.
Et alors justement, parlons-en, parce qu'il y a beaucoup d'obstacles à ce 1 plus 1 égale 3. Et l'un de ces obstacles, c'est le fait que Axel, c'est un mec cis-het. Ça va poser beaucoup de questions tout au long du livre, parce que c'est aussi un mec qui sort avec deux personnes queer. Quelle place on lui réserve dans des espaces militants plutôt queer qui existent pour aussi réfléchir à comment on pourrait faire advenir un monde meilleur? Est-ce qu'on doit l'exclure au nom de la non-mixité? C'est ce que demandent certains des personnages qu'on croise dans le livre. Ou est-ce qu'on se dit que de toute façon, il va bien falloir composer avec eux? J'ai l'impression que la BD, elle tranche pas cette question, mais elle la pose. Et c'est ça que j'ai trouvé assez intéressant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Jules Marot. Peut-être que je suis complètement à côté de la plaque.
Non, c'est très bien résumé.
Il y a un dilemme comme ça que vous ne résolvez pas, quoi.
Non, parce que... Je pense pas qu'on était intéressé, en tout cas moi j'étais pas intéressé de spécifiquement cloisonner des réponses à ces questions-là, parce qu'elles sont complexes et elles sont contextuelles et voilà, ça demande vraiment beaucoup de temps d'essayer de les résoudre. Et je pense qu'on est tous occupés dans ce milieu de toute manière à le faire. Quand je dis milieu, c'est vraiment communauté LGBT et antifa et transféministes, voilà, qui se croisent évidemment, et les luttes aussi antiracistes aussi. Donc voilà, je pense que en fait c'est vrai qu'il s'en prend un peu plein la tronche, mais c'est simplement parce que de mon point de vue il est toujours persuadé qu'il a fait la bonne chose ou qu'il a pris la bonne décision
il se met, il décrope top, voilà. Il fait pipi assis, vraiment il fait le max.
Et c'est vrai que dans les espèces de citations qu'on a, même dans les quatrièmes de couverture, on a avant-après le récit, ouais. Et après le récit, voilà cette citation de Axel qui à mon avis résume vraiment le personnage, c'est « Et mon vernis, c'est pas antipatriarcal ?» Mon vernis à ongles, c'est pas antipatriarcal. Et donc ça, c'est vraiment Axel pour le coup.
C'est d'être un petit peu toujours en retard sur ses idéaux, un petit peu quoi.
C'est d'être persuadé qu'il a vraiment compris, ouais, tout ce qu'il avait à déconstruire. Hélas. Mais que ça va lui prendre une vie et que ça, il n'a pas encore accepté.
Alors une phrase qui revient à plusieurs moments dans le livre, c'est « La poésie, c'est pas un luxe. La poésie n'est pas un luxe. » C'est le titre d'un texte d'Audrey Lorde publié en 1977. Et Zoé va nous en lire un extrait.
La poésie n'est pas un luxe, c'est une nécessité vitale. Elle génère la qualité de la lumière qui éclaire nos espoirs ainsi que nos rêves de survie et de changement. Espoir et rêve d'abord mis en mots, puis en idées, et enfin transformés en actions tangibles. La poésie est le chemin qui nous aide à formuler ce qui est sans nom, le rendant ainsi envisageable. Les horizons les plus lointains de nos espoirs et de nos peurs sont pavés de nos poèmes, taillés dans le roc des expériences de nos vies quotidiennes. À mesure que nous apprenons à les connaître et à les accepter, nos émotions ainsi explorées deviennent des terres fertiles pour les idées les plus radicales et les plus audacieuses. Elles abritent dès lors cette différence si nécessaire au changement et à l'élaboration de toute action sensée. Je pourrais énumérer sur le champ au moins 10 idées qui, si elles n'étaient pas nées de rêves et de poèmes, m'auraient paru intolérables ou incompréhensibles et effrayantes. Il ne s'agit pas d'un songe creux, mais d'une attention soutenue prêtée au véritable sens de « cela est bon pour moi ». Les pères blancs nous ont inculqué « je pense donc je suis ». La mère noire, en chacune de nous, la poète, vient murmurer dans nos rêves « je ressens, donc je peux être libre ». La poésie cisèle la parole pour qu'elle exprime et guide cette exigence révolutionnaire, l'accomplissement de cette liberté.
Jules Marot et Sabrina Calvo, qu'est-ce qui vous a parlé dans ce texte d'Audrey Lorde? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'échos, évidemment, dans votre BD à ce texte. Cette lutte entre une pensée très occidentale, très rationnelle, peut-être incarnée par Axel, qui a ce petit côté geek, et qui est beaucoup dans la maîtrise. Et puis de l'autre, il y a Molly, qui est couturière, comme vous. D'ailleurs, Sabrina, me semble-t-il, qui fait des robes qui sont comme habitées par une sorte de présence. Voilà, qu'est-ce qui vous touche comme ça dans ce texte? Peut-être Sabrina.
Ouais. Comme tu veux, Jules, tu veux en parler d'abord?
Non, vas-y.
Moi, le texte en lui-même, je pense que c'est un texte qui est très important et qui est fondateur de plein de choses. Et je pense que c'est important aussi dans nos ouvrages et dans tout ce qu'on fait d'essayer de porter avec nous les voix de tous les gens qui nous ont portés, qui nous portent encore. Enfin, je veux dire, on est des chambres d'amplification aussi, c'est important, parce que finalement, on a assez peu de tribunes en dehors des émissions dédiées ou des alliés ou des choses comme ça. Finalement, on a assez peu d'expositions là-dessus. Alors, bon. Donc, c'est pour nous, c'est important, ça. Mais je crois qu'au-delà du texte, ce qui est assez central pour moi, c'est, et vraiment, je parle simplement, c'est qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, comment on veut vivre aujourd'hui, quoi, et qu'est-ce qu'on a comme moyen pour célébrer cette vie et la rendre toujours plus lumière, et travailler avec cette lumière là, c'est là où la poésie aujourd'hui se trouve, c'est-à-dire comment est-ce qu'on arrive à comprendre ce qui nous rend vivante et ce qui nous permet de rester vivante dans cet océan de mesures et de quantification, d'assignation, de boîtes dans des petites boîtes, dans des petites boîtes. Et comment est-ce qu'on se sort de ça? Et qu'est-ce qu'on peut donner aux gens autour de nous, aux gens qui arrivent après nous, comme encore une fois, comme outil, ou en tout cas comme ligne d'horizon, pouvoir trouver non pas du sens, parce que j'aurais pas la prétention de donner du sens à quoi que ce soit, ou en tout cas parce que ce serait mon sens à moi, ou ce serait peut-être un sens idéologique, je sais pas, mais en tout cas de donner des moyens de construire quelque chose qui serait du rêve collectif et du possible collectif.
Et un de ces moyens, c'est ce recours à quelque chose de peut-être plus fantastique. Je ne sais pas exactement quel mot employer. Vous récusez un petit peu dans la bouche de Prine le mot de sorcière, mais il y a quand même quelque chose de magie. Je crois que vous parlez d'un invisible aussi. C'est une terminologie que je crois que je vous ai déjà entendu employer. Quelle part tout ça prend dans votre travail et pourquoi c'est important du coup?
Alors, c'est très compliqué comme question parce que déjà, on a si peu de temps pour essayer d'être, d'être sincère et simple. Non, non, c'est pas votre faute. C'est juste que faut être très méfiante avec ces termes-là. Enfin, je veux dire, le terme de spiritualité, le terme de tout ça, c'est de l'idéologie. Tout ça, on a. C'est très compliqué aujourd'hui. Tous les termes ont été atrophiés, tous les termes ont été standardisés, banalisés. Enfin, c'est compliqué. Donc, trouver aussi des mots pour décrire cette part de nous qui opère entre les choses, c'est-à-dire entre les gens, entre nous et nous-mêmes, quand on se regarde nous-mêmes, quand on est conscient de notre propre souffle. Et je pense que c'est cet entre-deux-là qui a besoin d'être nommé. Alors, Rilke l'appelait l'ouvert. C'est pas un terme que j'aime forcément, mais je trouve que c'est un terme qui est assez intéressant, en termes de champ d'ouvert, c'est-à-dire de zone collective qui reste encore complètement... elle est sensible à tout, mais elle est hermétique à la mise en mesure, à la publicité, à la valorisation, à la marchandisation. Mais elle est là. Et qu'est-ce que c'est nos outils pour en prendre conscience? Par quoi on peut y accéder? Et ça n'a rien de spirituel, ça n'a rien de fantastique. Tout ça, c'est juste un endroit de commun non réalisé, quelque part. Et c'est cet endroit-là qui permet l'existence de l'imagination créative qui va s'exprimer dans... Ça peut être simplement des gestes du corps, ça peut être de l'amour, ça peut être du geste créatif pur, ça peut être des œuvres, ça peut être n'importe quoi, ça peut être de la poésie, ça peut être éventuellement même de la propagande. Mais cet endroit-là existe et je pense qu'il faut le montrer. Et il existe parce qu'il a une influence sur nous, de la même manière que nos rêves ont une influence sur nous ou que notre souffle a une influence sur nous et sur les autres.
Peut-être que Hacker la peau en montre une version Jules Marot, peut-être rapidement.
Non, en fait, ça me fait penser, parce que là, on parle beaucoup du personnage de Prine, en fait. C'est ce personnage, Prine, c'est une personne... queer, non-binaire, afro-descendante dans le récit. Et donc, la citation d'Audrey Lorde, en fait, vient de cette première rencontre qu'elle a avec Axel. Sauf que quand elle sort cette phrase dans cette espèce de débat houleux qu'ils ont, parce qu'elle a une espèce de rêve, elle a une quête, en fait. C'est en effet le personnage le plus spirituel, peut-être, à sa manière, en tout cas, dès le début du récit. Et en fait... Axel est très marqué par cette phrase de « la poésie n'est pas un luxe », mais en fait, ça va le travailler et à un moment beaucoup plus tard dans le récit, il va le ressortir comme un argument, alors qu'au début, il n'y croyait pas lui-même. Et en fait, il se fait gauler parce qu'il ne savait pas que c'était la citation d'une autrice.
Encore une fois, il est à la ramasse.
Voilà, et donc, il y a une meuf qui lui dit « bon, ça va quoi, de citer Audrey Lorde comme ça, enfin, de t'approprier enfin, les luttes aussi, enfin bref. » Mais bref, le personnage de Prine, d'où vient cette citation, en effet, d'Audrey Lorde dans le récit, je pense que ce qui est central pour ce personnage, c'est vraiment, des aspects centraux, c'est que l'imaginaire est un instrument de lutte. Mmh. Et en effet, ça fait peut-être partie des questions aussi qu'on essaie de poser de manière ouverte dans le récit, c'est comment une communauté qui est prise d'assaut par le fascisme et par des formes d'idéologie qui cherchent à clôturer et trouver des boucs émissaires, puisse de manière non violente créer des formes de lutte qui soient différentes.
On va s'en tenir là pour le moment. On va vous retrouver dans un instant. Sabrina Calvo, je suis désolée, on avait encore des milliers de questions, mais on doit déjà vous laisser. Merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir rejoints à distance depuis Londres. On vous souhaite bon vent. On vous dit à très bientôt. Et on reparle d'Hacker la peau dans 10 minutes. Mais d'abord, c'est l'heure des disques du lobby.
Le lobby.
Et je crois qu'il faut toujours écouter.
Radio Campus Paris.
Et c'est avec Xavier, comme tous les mois. Salut Xavier. Hein? Comment ça va?
Bah ça va super, et toi?
Ah bah ça va super aussi. Je te laisse nous présenter notre invité de la semaine, enfin ton invité de la
tout
semaine.
Tout à fait. Et ben Colin, Victor et toute la fine équipe du lobby de la semaine, depuis le temps qu'on se connaît maintenant, vous savez à quel point j'adore le cabaret. Parce que le cabaret, c'est cet endroit un peu bizarre où les artistes cassent tous les codes de la représentation scénique et s'approprient totalement leur espace pour créer des moments à la fois artistiquement dingues, mais aussi politiques, coquins ou tout simplement subversifs. Et c'est lors d'un cabaret, justement, que j'ai rencontré l'Amulette, sur un ring de boxe, prête à en découdre, avec comme arme son piano, sa voix, mais surtout sa délicatesse. Alors peut-être que vous aussi, vous avez déjà croisé l'univers en noir et blanc et roux de l'Amulette, sans doute chez Madame Arthur, l'incontournable, ou aux représentations du cabaret de la bouche ou de celui du ping-pong. Mais justement, ce soir, j'avais envie d'en apprendre un petit peu plus sur ce clown pas toujours triste à la voix d'ange. Et quoi de mieux pour apprendre à se connaître finalement que de venir dans une émission et interpréter des chansons. Donc du coup, tout de suite, on a la chance d'avoir maintenant avec nous l'Amulette, avec un mash-up un peu spécial ce soir, en live dans le lobby sur Radio Campus Paris.
Je compte les jours, je compte les heures. Laisse-moi te dessiner dans un désert. Le désert de mon cœur. Bébé, je t'emmène à 400 BPM. Je veux vivre le chaos à l'extrême. Est-ce que tu ressens la vitesse briser tes chaînes? Devenons des goudous éternels. Bébé, je t'emmène à 400 BPM, je veux vivre le chaos à l'extrême. Est-ce que tu ressens la vitesse briser tes chaînes? Devenons des goudous éternels. Je t'emmène à 400 BPM. Je veux vivre le chaos à l'extrême. Est-ce que tu ressens la vitesse briser tes chaînes? Devenons des gouttes éternels. Bébé, je t'emmène à 400 BPM. Je veux vivre le chaos à l'extrême. Est-ce que tu ressens la vitesse briser tes chaînes? Devenons des gouttes éternels. Je veux vivre le chaos à l'extrême. Est-ce que tu ressens la vitesse brisée tes chaînes? Devenons des goudous éternels. Bébé, je t'emmène à 400 BPM. Je veux vivre le chaos à l'extrême. Est-ce que tu ressens la vitesse brisée tes chaînes? Devenons des goudous éternels.
L'Amulette en live dans le lobby sur Radio Campus Paris avec cette reprise, si j'ai bien compris, tout à fait personnelle de Désert de Émilie Simon, j'ai raison.
Bah, j'ai l'impression, oui, mais c'est l'Amulette qui va nous l'expliquer. Est-ce que tu peux nous expliquer justement un petit peu ce titre et en quoi il te représente ?
Ah ben, Émilie Simon, moi je l'avais découvert tout petit et en fait j'étais dans le placard, quoi, donc ça me tenait vraiment à cœur. Et vu que je le suis toujours, étonnamment, ça me tenait à cœur juste de prendre ça et de prendre une autre instru qui, pour moi, représente aussi la queerness et de tout mélanger. Et en fait, juste là, j'ai envie de prendre de la vitesse. Viens, on y va, bébé, à 400 BPM. Et puis c'est parti, on vit notre vie.
On en a parlé un petit peu dans l'intro. On a parlé du cabaret queer essentiellement, car c'est là que tu évolues. Comment tu vois la fonction du cabaret aujourd'hui?
Oh wow.
C'est un peu deep comme question.
Un peu. Bah, je pense avant tout que ça fait du bien à tout le monde. C'est vraiment salvateur pour les personnes qui en font, parce qu'en fait, on voit vraiment une différence sur les années avec mes collègues, les interprètes, de « ok, ça nous fait évoluer hyper rapidement », mais aussi le bien qu'on fait aux gens, parce qu'en fait, il n'y a pas de quatrième mur, juste on vit la même aventure au même moment, ensemble, et à chaque fois, on construit, quoi.
Trop bien. Tu chantes beaucoup les chansons des autres dans les cabarets, mais je crois que tu as aussi tes propres compos, tes propres
Total.
Morceaux. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus? Parce que tu as un autre alias aussi qui s'appelle Mekias. Est-ce que du coup, c'est là-dessus que tu réserves tes compos?
Exactement.
Ou, voilà. Où est-ce que tu en es par rapport à tout ça?
Je suis en phase de composition, j'ai un EP qui est prêt, du coup là je taffe quoi, ça charbonne pour le sortir le plus vite possible.
Parce qu'il y a des titres que tu fais en live.
Totalement, mais alors ça, il faut venir. Ça, faut venir.
Et alors justement, où est-ce qu'on peut venir dans les prochains jours, prochaines semaines, te voir, et c'est quoi les actus?
Eh bien, Xavier, c'est votre jour de chance. Ah. La semaine prochaine, les 4, 5, 6 et 7, on fait la spéciale électro techno chez Madame Arthur.
Ah waouh.
Ouais.
Vous faites
et
ça?
Eh ouais, on fait ça. Bah attends.
Je serai là. Ah non, 4, 5, 6, 7. Bon, ok, on en reparle.
4, 5, 6, 7 avril. Et c'est avec Martin Popins, Diamanda Calas, Billy Larme à l'œil. Et la DA, c'est Mascar.
Ah.
Donc ça va être très très chouette.
Mascar et Billy que nous connaissons, puisque oui, nous avons reçu
dans cette émission. J'adore dire ça.
Namoro. Tout à fait.
C'est ça.
Est-ce qu'on a reçu Diamanda Calas? Pas encore.
Pas encore, mais on en a parlé dans une chronique. Bref. Eh ben merci beaucoup, l'amulette.
Merci à vous.
Vous restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Si vous voulez, il reste un petit quart d'heure. Voilà, installez-vous, vous pouvez.
Volontiers, j'ai un verre d'eau.
Super. Et puis merci, Xavier.
Merci.
Allez, 20h45.
Why can't I say the word? I mean, why can't I just say
le lobby?
Susan, I'm gay.
Radio Campus Paris.
Et avec Jules Marron, on continue de parler de Hacker la peau que vous avez fait paraître aux éditions du Lombard, aux côtés de Sabrina Calvo, avec qui on était tout à l'heure. Quelle place cette œuvre elle a eue dans votre cheminement artistique? Parce qu'on vous connaît à la base avec Le bleu est une couleur chaude, qui était votre première BD sortie en 2010. Est-ce que voilà, c'est une nouvelle étape, cette BD, un petit peu voilà.
Bah, en fait, je considère qu'aucun projet est amnésique du travail de précédent. Donc, pour moi, il y a forcément une forme de continuité. Il y a des thèmes qui se recoupent toujours. Les problématiques queer, politiques, pour moi, c'est vraiment essentiel dans mon travail d'aller creuser ce que j'appelle cette espèce de no man's land qu'il y a entre l'intime et le collectif. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a souvent des formes de tiraillement, en tout cas dans nos réalités à nous, sociales, de formes de tension, en fait, entre l'intimité et ce qui est attendu de nous de manière collective, généralement.
Je parlais du bleu est une couleur chaude, donc paru en 2010. Les choses ont beaucoup changé depuis. J'imagine que vous étiez peut-être un petit peu seul au rayon queer du rayon BD à l'époque.
Pas de rayon queer.
Voilà, vous étiez vraiment très seul. Et donc, ce que j'allais dire, c'est que les choses ont pas mal évolué en 15 ans. Par exemple, il y a quelques semaines, on avait lieu le festival des Plancheureuses à Paris, un week-end pour mettre à l'honneur des BDastes queer et féministes, Victor.
Oui, et on a reçu dans cette émission deux des organisatrices de l'événement, dont l'autrice de BD, Ludine. On l'écoute tout de suite.
La BD, c'est pratique parce que c'est une façon d'avoir du texte, mais aussi des images. Et c'est un médium qui est assez populaire, au terme de... Bah, c'est transgénérationnel, c'est la BD, les BD, il y en a pour les enfants, il y en a pour les adultes. C'est une façon de se cultiver qui est présente chez toutes les classes sociales, enfin plus ou moins, mais voilà, les Bourges appellent ça roman graphique, mais c'est la même chose. Et beaucoup de gens qui disent ne pas lire, lisent des bandes dessinées, enfin c'est vraiment très accessible. Et c'est par ailleurs un milieu, enfin le 9e art, est en train de faire de prendre le pas MeToo, mais prend plus de temps que les autres. Parce que a été sclérosé par le et encore sclérosé par le sexisme vraiment particulièrement fort.
Jules Marot, vous êtes d'accord avec Ludine déjà sur la question de l'aspect populaire de la BD? Est-ce que c'est aussi un bon moyen pour faire de la question de la pédagogie?
Pardon, oui, moi j'encourage tout le monde vraiment à en faire parce que c'est hyper facile. Les moyens d'en faire sont multiples. On peut publier un fanzine ou un webcomic en fait en 2-2, en moins d'une journée. On a créé une bande dessinée déjà. On peut la diffuser parce que ce sont des modes de diffusion qui en fait ne sont pas entravés par le pouvoir. C'est vraiment quelque chose en effet très populaire. Ouais.
Ludine, elle dit aussi que le monde de la BD, elle fait progressivement son MeToo, que c'est un milieu encore largement gangréné par le sexisme. Une des illustrations de ce phénomène, ce serait l'affaire Bastien Vivès, dont on a beaucoup parlé il y a un an. Est-ce que vous voyez un petit peu les lignes bouger?
Comme j'ai cofondé en fait BD Égalité en 2015, moi j'ai l'impression qu'on était là avant MeToo, parce qu'on a même diffusé 70 témoignages sur le site internet avant qu'il y ait le lancement de l'affaire Wensen et tout ça. Donc on était déjà là très, très présente. On a fait bouger déjà les lignes en fait parce qu'il y a des luttes qu'on est obligé de mener. Il n'y a pas une espèce de progrès naturel qui s'opère de lui-même. C'est-à-dire qu'on est toujours en mode instrument de veille toujours. Et avec ce collectif-là, c'est vrai qu'on a obtenu gain de cause sur pas mal de choses.
Un point sur lequel je voulais revenir, c'est donc cet aspect pédagogique de la radio, oui, de la radio aussi, mais c'est de la BD qu'on parle ce soir, de la BD. À la fin de Hacker la peau, il y a quelques références que vous donnez, le site de l'association à outrance, je crois, notamment. Voilà, quelques références pour un petit peu prolonger la réflexion pour des gens qui n'auraient pas forcément le vocabulaire militant autour des transidentités, des questions LGBT. J'ai cru comprendre qu'il y avait eu la question de mettre même en place un lexique qui a été abandonné en parlant avec les éditions du Lombard. Voilà, comment est-ce que a émergé cette réflexion autour de comment est-ce qu'on est accessible, à quel public, etc.
Bah, en fait, ça pose tout de suite la question de c'est quoi un récit queer ? De quoi c'est constitutif, d'où ça démarre, à qui ça s'adresse ou pas, etc. Et nous, ce qui nous intéressait, c'était de pas éduquer justement, de pas forcément venir avec des termes explicatifs et sortir du récit en permanence. C'est un livre qui demande à être lu. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui nous ont dit ça, mais parce que dès qu'on arrive dans le récit, on a l'impression qu'il faut accrocher son wagon à un train qui quitte la gare.
Ouais.
Et on est plongé d'un seul coup dans la réalité de plusieurs personnages et aussi d'un contexte sociopolitique qu'il faut un peu comprendre au fur et à mesure. Et nous, c'est vraiment ce qu'on avait envie de développer, en fait. Et donc, si on avait mis un lexique, ça aurait fermé des choses. Mmh. Et en fait, on aime trop l'idée qu'il y ait des mecs 6-7 qui se demandent c'est quoi un dick lit, qui aillent sur Google Images, voilà, pour chercher c'est quoi. On préfère, en fait, de manière très machiavélique, qu'il se passe ça.
Bah oui, mais aussi pousser les gens à faire un petit peu leur recherche. J'avais une question, mais elle m'échappe. Qu'est-ce que je vais faire du coup maintenant ? Parce que c'était vraiment une bonne question. Oui, voilà, les éditions du Lombard, ça y est, je retombe sur mes pieds assez rapidement. Vous publiez cette BD aux éditions du Lombard et c'est assez intéressant parce que c'est une maison d'édition avec un catalogue quand même assez classique qui a quand même pas eu peur de voir arriver votre projet, qui d'ailleurs l'a tiré à, je crois, pas mal d'exemplaires. J'ai plus les chiffres en tête, mais j'ai le souvenir que c'était un nombre assez...
C'est tiré à 20 000 exemplaires.
Voilà.
C'est très courageux. Je vois vos têtes dans le studio. Genre, ah bon ? Oh là là. Oui, non, c'est la démonstration de vraiment... à quel point l'équipe éditoriale croit dans ce projet, a été charmée par cette histoire. Mais j'ai eu la même réaction, en fait. Quand on m'a proposé le Lombard, des amis m'ont dit « Mais pourquoi tu ne demandes pas le Lombard ?» Et moi, j'étais là « Comment ça, le Lombard ? Mais Tintin, machin, etc. » Mais c'est vrai que, en fait, le nouveau catalogue qui s'est renouvelé, et surtout l'équipe éditoriale aussi, c'est ce qui m'a mis en confiance. C'était de me dire « Ah, mais ce livre-là, c'est eux. Ah, mais ça aussi. Ah, mais il y a telle personne. » Et donc, j'en reviens aussi à ce que disait Ludine, c'est... j'espère que je l'ai bien prononcé.
Oui, c'est exactement ça.
Mais c'est qu'en fait, il y a un changement qui se fait aussi au sein des maisons éditoriales. C'est-à-dire que cette histoire de sexisme et peut-être de tout simplement de forme d'oppression et de plafond de verre, qui n'est pas seulement que pour les femmes, mais aussi pour les personnes racisées qui font de la bande dessinée, pour les publics LGBT, ce changement-là, il est aussi en train de se faire dans les sphères qui détiennent le pouvoir, justement. C'est-à-dire que les équipes éditoriales, les éditeurs, les éditrices, qui prend les décisions de publier quoi, ça aussi, c'est en train de changer. Parce que tout simplement, la bande dessinée, c'est un milieu qui est le reflet de ce qui se passe à l'échelle sociétale. C'est pas plus avancé ou en retard par rapport à la société. C'est au contraire un miroir assez juste, je trouve, de ce qu'on vit, nous, déjà, dans la société. Et donc, quand on parle de l'affaire Bastien Vivès, en fait, c'est à remettre dans le contexte de ce qui se passe aussi en France, de toute manière, sur comment sont traités les prédateurs aujourd'hui en France.
Merci beaucoup, Jules Marot. On avait un poème de Martin Page dans un recueil à sortir qu'on voulait lire, mais je crois pas qu'on ait vraiment le temps. Ce sera pour une autre fois, de toute façon.
C'est très dommage, parce qu'on va pas se quitter sur le nom que je viens de citer. J'aurais aimé un
Quittons-nous
poème, en
sur
effet.
Le nom de Martin Page, qui sort voilà. un recueil le 5 avril aux éditions Bruno Doucet. Merci beaucoup, Jules Marot. Je rappelle le nom de la BD que vous co-signez avec Sabrina Calvo, Hacker la peau, c'est donc paru aux éditions du Lombard. Le lobby, ça continue encore pendant quelques minutes, et c'est l'heure de la chronique de Zoé. Ça va, Zoé ?
Super, et toi ?
Ah bah ça va super, tout le monde me répond ça et à chaque fois je dis super. Bonne ambiance. Alors dimanche dernier s'est terminée la 46e édition du Festival International des Films de Femmes à Créteil, qui met donc à l'honneur des réalisatrices. Tu t'y es rendue pour assister à un ciné-concert du court-métrage Sportive réalisé par Carole Vidal.
Tout à fait, c'est un cours assez récent qui a été monté à partir de Rush, filmé lors des Gay Games de San Francisco en 1986. Donc pour info, en 2018, les Gay Games avaient eu lieu à Paris, je sais pas qui avait suivi cette information autour de cette table. Et en 2026, ils auront lieu à Valence, en Espagne. Donc, personnellement, je vais me mettre à l'espagnol dès maintenant. C'était donc une très chouette projection, discussion, débat, performance, puisque la musique était jouée en live par Camille Riet. Si j'ai pu voir ce film, c'est bien parce que un festival, mais surtout une salle, des archivistes, des documentaristes, des productrices, parmi lesquels le Centre audiovisuel Simone de Beauvoir et la BNF, ont participé à la réhabilitation des rushs, des images et ont pu payer la numérisation des pellicules. J'ai donc voulu me renseigner sur les dernières sorties ciné lesbiennes et queer, et vous n'êtes pas sans savoir qu'un film appelé Love Lies Bleeding n'est toujours pas sorti en France, faute de distributeur. Je me suis donc contentée de regarder la bande-annonce.
So where did you appear from?
Oklahoma.
I've never been anywhere but here.
What were you doing with that big girl?
Get a lot of crazy ass foreigners mostly. How's it going, guys?
This here's Jackie.
Hi.
She needs a job. Says she'll do anything.
Yeah, you like guns?
Not really.
What the fuck you doing here then?
Love Lies Bleeding, ou D'amour et de sang en français, c'est donc un film de Rose Glass et Veronica Toflisca avec Kristen Stewart et Kathy O'Brien. Comme dans tout film américain qui se respecte, il y a un maximum de guns, mais pas comme dans tous les road movies américains, les hommes ne sont pas les personnages principaux du film. Alors, bien sûr, une des héroïnes, Jackie, se rend dans une salle de sport et c'est là qu'elle rencontre Lou et que s'ensuit une histoire passionnelle pleine de rebondissements où elles plongent leurs mains musclées dans des bagues de balles de guns avant de s'embrasser fougueusement. Enfin, plein de rebondissements, j'imagine. D'ailleurs, je ne pourrais pas vous dire ce que je pense du film puisque, alors même qu'il est sorti aux États-Unis en décembre 2023, il n'est toujours pas sorti en France.
Je sais ce que tu es.
Non, oui, parce que j'ai une relance, mais je me la suis pas notée, donc pardon Zoé.
C'est pas grave. Ta relance, c'était, est-ce que ce serait dû à la chronologie un peu longue des médias?
Est-ce que ce serait dû un petit peu à la chronologie un peu longue des médias, Zoé?
Eh bien, c'est une hypothèse que j'aurais aimé valider, mais après avoir cherché longuement, c'est pas ça. Généralement, un film qui sort aux États-Unis sort 4 ou 5 semaines après en France. Or, avec Love Lies Bleeding, on est à plus de 4 mois. Aucun distributeur n'a pu ou n'a voulu distribuer ce film et j'y vois pour ma part un manque de volonté, voire de lesbophobie. Vous allez me dire que je vois de la lesbophobie partout. Eh bien, c'est pas totalement faux et j'y vois aussi peut-être une petite part de sexisme. J'ai du mal à croire qu'un film réalisé par deux femmes, donc avec des moyens aussi gros que les muscles de leurs héroïnes, qui travaillent quand même dans une salle de sport, et avec Kristen Stewart, qui est une des actrices les plus connues, les plus récompensées dans l'histoire du cinéma, ne soit pas distribuée en France. On parle quand même de l'héroïne de Twilight.
Je sais ce que tu es.
Dis-le à voix haute.
Un vampire.
Est-ce que tu as peur ?
Non.
On sait que ce genre de série au succès mondial permet aux actrices principaux de finir leur carrière à peu près tranquillement. Et donc, le fait que ce film Love Lies Bleeding ne soit pas distribué dans un pays aussi cinéphile que la France est un peu suspect. Je rappelle également que pour accompagner la sortie de ce film, Kristen Stewart a posé pour le magazine Rolling Stone dans des poses assez subjectives et qu'elle a été évidemment la cible d'attaques de personnes qui ne supportent pas de voir une femme incarner une sexualité libre et choisie. Et à cela, nous ne pouvons que suivre Kristen qui, interrogée à ce sujet, sur le plateau américain du Late Show, répond « Fuck you ». Heureusement, il y a toujours les festivals de cinéma queer qui restent les meilleurs lieux pour voir un maximum de films qui ne passent pas toujours par la grande distribution. Pour Paris, je citerai Chéri Chéri en novembre ou Cinéfable en octobre. Je finis tout de même cette chronique par la recommandation d'un film que vous pourrez, lui, aller voir au cinéma. C'est le film chinois Blue Summer, été bleu en français, de Zheng Zihan, sorti en salle la semaine dernière, qui suit une adolescente le temps d'un été, alors qu'elle est confiée à son père qui travaille dans un studio de photographie. Elle y fera des rencontres agréables, mais je ne vous en dis pas plus. Je vous laisse sur ça, vive les réalisatrices, vive les femmes qui font vivre les films et fuck la distribution française.
Merci beaucoup Zoé, pardon, j'ai vraiment pas du tout assuré pour ta deuxième chronique ici. En tout cas, merci beaucoup et puis la transition est toute trouvée pour faire notre petit agenda de fin d'émission. Alors je commence, comme ça je laisse Diego se préparer de l'autre côté de la vitre. N'oubliez pas que le 31 mars c'est la journée de la visibilité trans et donc quelqu'un à qui j'ai envie de donner beaucoup de visibilité, c'est le drag king, drag clown Miroslav Toi les mains. On va voir son spectacle Qu'est-ce que c'est ce cirque ? Le show Drag Cirque qu'il vous propose avec le professeur De Caro, première édition ce vendredi au Titi Palacio. Et puis donc je le disais, 5 avril, sortie de Non-Binaire, le recueil d'un poète maintenant qui s'appelle Martin Page, et dont Diego, tu veux peut-être nous lire rapidement un extrait ?
Oui, bien sûr.
Alors on t'écoute.
En attendant la fin des oppressions, des inégalités, la fin du système d'exploitation de domination, en y travaillant, on multiplie les modalités d'existence. on s'offre plus de choix et de liberté, d'organisation sexuelle, relationnelle, familiale. De nouvelles manières d'être, de désirer, d'aimer et de vivre. Ça fera toujours société. Nos ennemis ne croient qu'en la réalité figée, mais nos existences sont armées d'histoires et de contes alliés.
Voilà, c'est sur ça qu'on voulait finir l'entretien avec vous, Gilles Marot.
C'est beaucoup mieux. Moi aussi, j'ai un agenda d'ailleurs.
Alors, on vous écoute très rapidement, s'il vous plaît.
Je serai tous les week-ends en dédicace à travers la France et aussi en juin. Donc, le meilleur moyen, c'est de s'abonner à ma newsletter pour le savoir.
C'est quoi le lien ?
Instagram.
Compte Instagram. On le mettra sur le site de Radio Campus Paris, radiocampusparis.org. Merci à l'équipe de l'émission, Margot Page à la réalisation, Suzanne Cinca pour la sonorisation du live. Émission préparée avec Juliette, Zoé, Xavier des Disques du Lobby et Victor. Merci à vous tous.
Le Lobby est de retour en podcast dès vendredi. Prochaine émission en direct sera le 23 avril, toujours à 20h avec Océan. Et d'ici là, retrouvez-nous sur Instagram @lelobbyrcp. À très bientôt.
Radio Campus Paris. Il est 21h.